Avant de commencer, cet épisode est issu d'une longue série dédiée à comment gérer un rayon en grande distribution. Aux côtés de Philippe Rovira, consultant et formateur spécialisé, nous revenons sur les grandes questions concernant la vie d'un employé et d'un manager en magasin. On y parle de gestion, de merchandising ou encore de management. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire à la newsletter du podcast pour ne manquer aucun épisode. Suite de notre épisode, on a parlé juste avant, Philippe, de comment bien préparer sa négociation. On va maintenant évoquer en 15-16 points, en fonction de... On verra si on a beaucoup de choses à dire, sur les outils et les techniques de négociation. Première question, qui doit faire la première proposition commerciale ?
Jamais nous, surtout pas. Il faut surtout pas dire, voilà, je voudrais deux. Alors, je prends à chaque fois l'exemple de marchandises gratuites, mais ça peut être plein d'autres choses, bien sûr. Hein. Il ne faut surtout pas dire, j'aimerais avoir 5% de marchandises gratuites. Et jamais attaquer une négociation, enfin en tout cas une demande directe de la sorte. Laissons d'abord notre fournisseur se positionner, et ils vont faire la même chose d'ailleurs, hein, pour ensuite contre-proposer derrière. Parce que imaginez, on demande 2% de marchandises gratuites et le fournisseur a la capacité de nous en apporter 5. Ben forcément, si on en demande 2, il va s'arrêter là, hop, il va nous accorder les 2, il va faire croire que 2, c'est énorme, il va faire une contre-proposition à 1 et il va nous laisser les 2 en sachant qu'il s'en garde dans 3 sous le coude. Donc, toujours laisser la partie adverse se positionner en premier pour rejeter la proposition, le non, systématiquement, hein, quelle que soit la proposition qui vous est faite par votre interlocuteur, même si elle vous convient, vous devez systématiquement la refuser. Et avec un jeu théâtral. Voilà, le fournisseur nous apporte, allez, restons sur la marchandise gratuite, nous apporte 5% de marchandise gratuite dans le cadre du référencement d'une nouveauté. Et là, on va le regarder droit dans les yeux, on va lui dire, attendez, ce que vous me proposez, c'est même pas un minimum. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 5% de marchandises gratuites? Je vais nécessairement avoir de la casse dans le cadre des ventes primaires de ce produit nouveau que les clients ne connaissent pas. C'est des produits que je souhaite faire déguster également à mes collaborateurs et collaboratrices. Et hors de question que je me positionne sur un taux de marchandises gratuites si faible. Tu vois, Jonathan, c'est même si le 5, c'est génial, on se dépositionne tout de suite. Un non, refus. Et ça, les fournisseurs, théoriquement, ils sont préparés. Hein. Comme je l'ai évoqué dans le premier podcast, on affiche un non initial systématiquement. Faut jamais dire oui, il faut jamais chercher un compromis tout de suite dans une négociation. Donc, voilà, laisser son interlocuteur faire en premier la proposition, la refuser, contre-proposer derrière, bien sûr, une valeur qui est plus intéressante pour nous.
Donc, toi, tu préconises de faire un peu preuve de désintérêt, d'être de fermeté, si je puis dire, avant d'orienter les discussions. C'est un peu ça, ta tactique commerciale.
Alors, il peut y avoir plusieurs façons de se comporter, Jonathan. Il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir effectivement un ton dur, il peut y avoir un ton sympathique. Tout dépend, en fait, j'alternais, d'ailleurs, avec un même fournisseur, je faisais en sorte d'avoir une approche sur chaque négociation totalement différente pour qu'il soit perdu, parce que sinon, il va se préparer forcément, il va se dire, tiens, mon interlocuteur acheteur, la dernière fois, il a utilisé telle technique, il a eu telle approche-là, bon, très bien, parfait, je vais maintenant m'y préparer et voilà comment je vais faire pour contrer sa technique-là. Et forcément, il faut le désarçonner en utilisant une nouvelle approche, une autre technique. Tiens, je vais te donner, par exemple, une petite phrase que j'aimais donner à mes fournisseurs avec un ton très sarcastique. On me propose un taux de remise, par exemple, que je considère peut-être très intéressant, mais je vais faire croire qu'il est totalement inintéressant et je vais utiliser cette phrase-là, par exemple. Rassurez-moi, c'est de l'humour. Vous êtes en train de me faire une plaisanterie. Parce que là, 3%, c'est pas possible. Ah, je suis rassuré. C'est une plaisanterie. Allez, maintenant, passons aux choses sérieuses et proposez-moi quelque chose qui tienne sérieusement la route. Tu vois, Jonathan, voilà ce genre de phrase. Donc, tu vois, on peut utiliser un humour.
C'est déjà entendu.
On peut la jouer autrement, bien évidemment. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais, surtout, ne jamais négocier toujours de la même façon avec nos fournisseurs parce que sinon ils vont s'y préparer en amont avant de venir vous voir.
Il y a d'autres techniques, hein, je sais que tu vas nous les expliquer, mais qui sont hyper intéressantes. Déjà, on peut faire jouer la concurrence. Ça, c'est quelque chose d'assez classique dans la négociation. C'est presque un classique, faire jouer la concurrence, oui. Justement.
Oui, tout à fait. On fait jouer, systématiquement la concurrence. Et alors, il y a des, il y a plusieurs façons de faire. Hein. D'abord, on peut l'évoquer de manière très brutale, nette, en disant attendez, votre concurrent me propose ça, mais et même si on majore, même si c'est du bluff, même si c'est pas vrai, on fait jouer le et on va pas choisir n'importe quel concurrent. On va volontairement choisir le concurrent qui est en train de progresser, qui est en train de lui piquer des parts de marché au régional, voire au national. Tu vois, encore une fois, c'est quelque chose qui se prépare. On va pas sélectionner n'importe quel argument, n'importe quel fournisseur pour lui montrer qu'on a des propositions plus intéressantes. Autre chose, tu laisses volontairement un plan de vente traîner sur ton bureau et le plan de vente de son concurrent direct. Alors certes, ce plan de vente, il faut pas qu'il le voit complètement, mais tu laisses dépasser le logo et tu verras, lorsque le fournisseur verra le plan de vente sur le bureau, sur ton bureau, il va changer de tête et il va se dire mince, j'ai mon concurrent qui est déjà passé et comme je sais qu'en ce moment, il pratique des conditions tarifaires très agressives pour gagner des parts de marché. Et je vais peut-être devoir changer mon fusil d'épaule et proposer mieux à mon interlocuteur. Sinon, il va me remballer. Tu vois, c'est aussi une autre technique que nous pouvons utiliser. Il y avait une autre chose que je faisais qui est très efficace. Je faisais en sorte de recevoir les deux fournisseurs qui sont concurrents l'un derrière l'autre. Le premier à qui je voulais mettre la pression, je le convoquais par exemple à 9h, et je convoquais le deuxième à 10h. Volontairement, je faisais en sorte que le premier rendez-vous dure jusqu'à 10h. Volontairement, je crée une situation d'échec. Je faisais en sorte de ne pas aboutir lors de ce rendez-vous-là. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il va sortir de mon bureau, il va passer devant la salle d'attente et il va s'apercevoir que dans la salle d'attente, il y a son concurrent direct qui peut-être est en train, comme je l'évoquais tout à l'heure, de faire de gros efforts pour le déloger régionalement, nationalement, au travers de remises considérables. Et dans ces cas-là, il va changer de tête et vous n'aurez même pas besoin de le ressolliciter. L'après-midi même, vous aurez un coup de téléphone où il majorera la proposition qu'il vous aura faite le matin par crainte d'être déréférencé ou d'être réduit en termes d'exposition à la faveur de son concurrent qui était manifestement en train de taper à la porte de l'acheteur. Tu vois, il y a différentes façons de faire jouer la concurrence, mais oui, c'est un grand classique, et oui, il ne faut pas s'en épargner.
Autre grand classique que j'ai assez pratiqué, c'est le silence. Que ce soit en négociation d'ailleurs, mais tu vois, je l'ai beaucoup pratiqué aussi en management, pour faire parler de ses équipes justement, et le silence, c'est assez habile, même dans l'humour, tu vois, dans le théâtre. C'est quelque chose qui est assez peu utilisé, enfin, mais qui a une force incommensurable. On ne se rend pas compte forcément de ce que ça représente.
Oui. Alors, c'est la technique du silence, elle est extraordinaire en négociation. Comme son nom l'indique, vous allez faire une proposition. Hein, par exemple, on va faire une demande de remise sur facture sur des fournisseurs 100% directs. Hein, faire remise sur facture additionnelle de 5%. Le fournisseur va donc utiliser son parapluie, va se dire que c'est pas possible, il va vous faire une contre-proposition à deux. Et dans ces cas-là, vous le regardez et sans ouvrir la bouche, sans rien dire, et vous attendez comme ça en le regardant, en le fixant. Vous maniez le silence, les secondes vont paraître à votre interlocuteur des heures, et là, il y a deux façons de réagir, une bonne et une mauvaise pour le fournisseur. La plupart tombe dans le panneau et dans le cadre de cette pression exercée par le silence, ils vont reprendre la parole et majorer leur proposition et passer de 2 à 3 par exemple. Peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attendait, mais ils vont la majorer. Et là, on reprendra l'échange en demandant plus. La bonne réaction qu'ils peuvent avoir, c'est que dans ces cas-là, pour contrer un silence, en fait, il faut reprendre la parole, pas en majorant la proposition, mais en argumentant. Pour défendre son offre, pour montrer la qualité de son produit, etc. Donc, tu vois, il y a une bonne et une mauvaise réaction. Donc, espérons que ça soit la mauvaise réaction pour que le fournisseur nous majore, bien évidemment, tout de suite sa contre-proposition. Mais le silence est d'une efficacité redoutable. Ne pas hésiter à l'utiliser.
Il y a aussi la technique du coup d'éclat que je connais beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous l'expliquer?
Alors, le coup d'éclat, en fait, souvent, cette technique, elle est utilisée pour débloquer une situation qui n'avance pas, une négociation qui n'avance pas. On aborde un sujet important pour soi. Ça peut être de la remise sur facture, ça peut être autre chose, une RFA, etc. Ce point-là est important et on n'arrive pas, le sujet n'avance pas. Et on aura préparé, dans la phase amont de préparation, qu'on en a évoqué dans le premier podcast, on aura préparé une proposition commerciale que l'on va servir sur un plateau. À ce moment-là, le fournisseur ne nous a absolument rien demandé, mais on va lui proposer quelque chose qui, bien évidemment, ne nous coûtera pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut le préparer, pour pas qu'on soit pris au dépourvu et qu'on invente quelque chose en live et qui risque d'être finalement plus coûteux qu'autre chose. Et c'est ça le coup d'éclat, c'est-à-dire on propose quelque chose à notre fournisseur. Exemple, je négocie donc par exemple une RFA, je négocie de la remise sur facture. Blocage. Je vais insister, montrer que c'est important pour moi, montrer que je suis contrarié, bien évidemment, et souvent à l'aide de bluff. Et à ce moment-là, je vais dire, écoutez, voilà, moi, j'ai envie de travailler avec vous. Vous avez des bons produits. Donc là, je fais une parenthèse, et passer un peu de pommade, ça fait toujours du bien également à son interlocuteur, donc ne pas hésiter, de manière raisonnable, mais pas hésiter. Et dans ces cas-là, vous lui dites, voilà, je vais faire un catalogue local, je vais faire une dynamique promotionnelle locale dans une quinzaine de jours, et j'ai décidé de sélectionner un fournisseur par famille de produits. Mais écoutez, au regard de la collaboration qui est la nôtre jusqu'à présent, je vous la propose. Voilà, on va faire une dynamique promo, on va utiliser toutes nos têtes de gondole pour exposer cette dynamique-là. On a une pression nationale promotionnelle à ce moment-là, donc on va en profiter. Et je vous propose de vous référencer dans le cadre de cette dynamique promotionnelle. Tu vois, Jonathan, on sert sur un plateau, donc on fait un coup d'éclat, on sert sur un plateau quelque chose qui, inévitablement, le fournisseur va être ravi. On va sélectionner quelque chose qui, forcément, va correspondre aux attentes de notre interlocuteur. Et là, à ce moment-là, notre interlocuteur va essayer de cacher sa joie, bien sûr. Mais dans sa tête, il va se dire « Yes, c'est X pourcentage de chiffre en plus, peut-être même une prime à la fin du mois. » Bref, il va y avoir une satisfaction et donc ça va être une zone de faiblesse. Et à ce moment-là, nous allons réattaquer sur le sujet en question, le sujet bloquant, le sujet important pour nous. Alors, je te dis pas que nous l'obtiendrons, mais inévitablement, notre interlocuteur sera dans des dispositions différentes. Parce qu'il saura qu'il vient d'obtenir quelque chose et d'intéressant, il ne peut pas non plus tout le temps nous dire non. Il faut qu'il lâche du lest aussi à un moment donné, que ça soit du gagnant-gagnant, et peut-être il nous en lâchera, hein, c'est pas gagné bien sûr, mais peut-être il nous en lâchera à ce moment-là sur le sujet qui est important pour nous. Voilà la technique du coup d'éclat.
La technique du leurre, qui pourrait être un peu apparentée à de la manipulation, même si j'aime pas trop le terme non plus. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu en penses et comment on peut l'utiliser?
Ouais, elle est géniale celle-là. Je l'utilisais très très régulièrement et j'invite nos auditeurs et auditrices à l'utiliser également. Alors, un leurre, ça se prépare hein, encore une fois. On va faire une demande initiale. Et on va faire croire que cette demande-là, elle est importante pour nous, d'où le nom de technique de l'objectif leurre. Et donc, on va, alors par exemple, je vais demander de la gratuité. Et je vais insister. Voilà, il me faut 2% de marchandises gratuites dans le cadre de telle commande, etc. Et le fournisseur refuse, on insiste, on lâche pas. Situation de blocage, volontairement créée. À un moment donné, alors il va pas falloir attendre trop parce que le blocage peut créer un conflit, une cassure, et il va pas falloir lâcher trop tôt parce que là, dans ces cas-là, le fournisseur va voir que c'est un objectif leurre. Donc, attendre suffisamment, insister suffisamment, mais pas trop, et à un moment donné, on va lâcher avec une phrase de ce type. Bon, écoutez, là, manifestement, je vois que ma demande ne correspond pas à ce que vous pouvez m'apporter, à la politique commerciale qui est la vôtre. Bon, je l'entends, je suis pas forcément d'accord, hein, vous l'avez vu, hein, pour moi c'était un point très important, mais bon, admettons. Allez, ok, on met ça de côté. Par contre, j'aimerais que l'on revienne sur la RFA. Je vous ai proposé, et là tu vois Jonathan, j'attaque le réel sujet. Le sujet pour moi, la RFA dans mon exemple, qui était le réel sujet de négociation qui est important pour moi, c'est celui-là qui est important. J'ai utilisé le leurre pour faire croire à mon interlocuteur qu'il avait remporté une bataille, pour exploiter une zone de faiblesse à ce moment-là, juste lorsqu'il aura cru qu'il avait remporté une bataille. Là, encore une fois, il va se dire… peut pas de nouveau dire non à mon interlocuteur ou en tout cas ça sera comme demi-non et j'obtiendrai peut-être quelque chose de supérieur sur la RFA dans mon exemple, ce deuxième point qui est important pour moi, grâce à l'objectif leurre que j'aurai manié en amont. C'est ça la technique de l'objectif leurre, Jonathan.
Autre technique, celle de l'effet de surprise, qu'on appelle aussi la technique Colombo, qui est pas mal aussi en termes de négociation. C'est de provoquer les yeux grands ouverts de son interlocuteur et celle de surprendre.
Alors, oui, je ne sais pas si tu l'as eu l'occasion de la pratiquer, cette technique-là. Alors, pour une petite histoire, pourquoi Columbo, c'est lié à la fameuse série américaine, l'inspecteur Columbo, qui passe encore d'ailleurs à la télévision. Et on s'inspire en fait de ce qu'il faisait. Alors, pour ceux qui connaissent pas cette vieille série qui date des années 1970, cet inspecteur allait vers le suspect, lui posait une question, deux questions, partait, faisait mine de partir et revenait, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander, et réattaquait comme ça à plusieurs reprises avec d'autres questions complémentaires. Nous, on s'est réapproprié cette technique-là et voilà ce que cela donne dans une négociation. On arrive au terme de notre échange, de notre négo, on a obtenu un certain nombre de choses, on a concédé un certain nombre de choses, et avant peut-être même de signer, s'il y a un bon de commande à signer, ou s'il y a une contractualisation minimale à faire ou pas d'ailleurs, avant de se séparer, on fait mine de signer, on fait mine de séparer, à ce moment-là, on lève la tête, on lève les yeux vers son interlocuteur fournisseur, et on dit, ah mais au fait, les frais de livraison, on est d'accord, hein, c'est pour vous. Tu vois, Jonathan, on fait une demande ultime à la fin, avant de quitter, alors qu'on faisait mine que tout était clôturé. Il faut pas, par contre, il ne faut pas que cette demande ne pèse trop lourd dans le total de l'accord. La demande, elle doit représenter un 0,3, un 0,4, un 0,5, voire maximum 1% de l'accord. Parce que sinon, notre fournisseur va dire non, notre fournisseur va remettre en question, va se remettre à la table de négociation et c'est peut-être reparti pour un échange. Par contre, si ça représente que quelques centaines d'euros sur des milliers d'euros d'achat, par exemple, dans le cadre d'une opération, le fournisseur risque de se dire « bon, là, je vais mettre en péril tout ce que j'ai obtenu. Là, connaissant mon interlocuteur acheteur, je vais repartir pour 30 minutes de négociation. Bon, allez, finalement, par rapport à ce chiffre d'affaires que je vais générer, allez, là, pour les 200 euros qu'il est en train de me demander, je vais lui donner. » Et tu vois, si j'avais demandé ça dans le cœur de la négociation, je ne l'aurais pas obtenu. En le demandant à la fin de la négociation, il y a peut-être plus de chances de l'obtenir. Et je vous invite même à ne pas s'arrêter à un seul Colombo. Hein. Généralement, on en fait deux, on ne va pas au-delà, mais on en fait deux. Hein. Donc, on lève la tête, on demande la gratuité de frais de livraison. Il nous l'accorde ou il rechigne un peu ou un petit échange et à ce moment-là, on le valide. On fait mine de signer le bon de commande et on relève la tête une deuxième et dernière fois, parce qu'il ne faut pas abuser bien évidemment, et on fait une deuxième tentative sur autre chose. Et par exemple, en lui disant, j'ai oublié d'aborder des délais de paiement. Vos délais de paiement sont à ce jour à 30 jours. Aujourd'hui, on achète dans la boîte, en tout cas, dans mon entreprise, systématiquement à 45 jours, fin de mois. On part sur ça vous va? Tu vois, Jonathan, on attaque ce sujet sur les dernières secondes, les dernières minutes de notre négociation. Technique de Colombo.
Il nous en reste encore trois de techniques. Et c'est bien parce qu'on a des exemples vraiment très concrets qui vont plaire, je pense, à beaucoup de managers qui nous écoutent. La technique du joker, je ne la connais pas, celle-ci.
Alors, encore une fois, ça se prépare. Un joker, c'est-à-dire, il faut que tu te prépares un sujet qui sera facile à traiter, à négocier. Où il y a une très forte probabilité que vous tombiez d'accord très rapidement. Et ce joker-là, cette technique-là, tu vas donc l'utiliser dans un moment bloquant, tu vois, sur un sujet où ça n'avance pas, un sujet important, où ça piétine et chacun se réfugie derrière ses arguments, ça n'avance pas. Là, tu mets entre parenthèses le sujet bloquant, tu gèles l'accord, si minime soit-il, et tu abordes ce sujet-là. Ce sujet-là va donc être traité de manière plus légère, puisqu'il est facile. Ce sujet-là va générer vraisemblablement, si on ne s'est pas planté de sujet, un oui des deux côtés, un accord va donc générer des émotions positives. On va donc entendre du oui dans l'échange, un oui qui remet les deux interlocuteurs dans une dynamique plus positive. Et dans ce cas-là, juste après t'être mis d'accord, après avoir utilisé ce joker, tu réabordes le sujet bloquant. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire que tu l'obtiendras forcément d'office, mais ton interlocuteur risque d'avoir écarter un peu ces idées noires, s'être un peu libéré, s'être ouvert un tout petit peu plus pour pouvoir attaquer ce sujet bloquant dans une dynamique plus positive. C'est ça, la technique du joker.
Autre technique, celle du parapluie. Pareil, je ne la connais pas du tout.
Ah, le parapluie, c'est ce que je t'ai évoqué tout à l'heure. Tu sais, c'est quand le fournisseur, et d'ailleurs nous aussi on l'utilise en tant qu'acheteur, hein, on utilise son N+1 pour se défausser, pour dire que c'est pas possible, qu'on peut pas accorder ça, etc. C'est tout simplement ça, le parapluie. Hein. Donc, un fournisseur qui nous demande d'acheter un volume important ou d'augmenter notre volume d'achat dans le cadre d'un catalogue, et on va se réfugier sur le N+1, notre chef de secteur ou notre directeur, voilà, qui a fait les achats, qui nous a demandé d'acheter ça alors que c'est pavé, que c'est du bluff, et c'est le parapluie. Et c'est pareil pour le fournisseur, lorsqu'on va leur demander de la gratuité, ils vont nous dire, voilà, la politique commerciale de mon entreprise ne me permet pas de vous répondre favorablement. Le parapluie, ça, on l'utilise très régulièrement. Alors là, il faut pas, nous, quand acheteurs et quand on nous sort ce genre de phrase, ce genre de parapluie, il faut pas se laisser abuser, et on attaque et on réattaque par le sujet. Et moi, quand j'entendais un fournisseur me dire, voilà, là, ça fait pas partie de la politique commerciale, ou mon directeur régional ne me le validera pas. Mais là, je me tourne vers le fournisseur, je lui dis, écoutez, appelez-le. Allez-y, appelez-le, et on va parler, là, tous les trois, vous me mettez sous haut-parleur, et on va traiter le sujet. Et donc là, l'erreur que pourrait commettre le fournisseur, c'est d'appeler devant moi son responsable de secteur. Et là, ça mettrait le chef de secteur et le manager, le fournisseur en difficulté, forcément, face à moi, qui écouterait, qui mettrait la pression. Donc, dans ces cas-là, le parapluie, on le fait voler en éclats. Hein. On demande ou un autre rendez-vous, et on ne lâche pas lorsqu'un fournisseur utilise le parapluie.
Autre technique qui est quand même assez utilisé sur grande distribution, c'est la technique du gentil et du méchant. On va tendance souvent à donner un peu trop la confiance à son interlocuteur pour l'endormir un petit peu, pour ensuite espérer qu'il se relâche. C'est un peu ça que je vois, moi, comme stratégie, non?
Oui, c'est ça. Et en fait, il y a véritablement un découpage de rôle. Admettons qu'on soit tous les deux, Jonathan, et on reçoive un fournisseur. Alors généralement, tiens, ça aussi, je vais te donner l'info que nos interlocuteurs auront probablement. Lorsqu'un fournisseur sait qu'on est plusieurs à négocier, c'est-à-dire qu'on le reçoit avec son chef de secteur, par exemple, ou avec son directeur ou directrice, il a tout intérêt à ne pas venir seul. Pour tout simplement un équilibre de cerveau. Hein. Donc, il viendra avec son chef de secteur, il viendra avec son compte-clé, il viendra avec un autre commercial pour que les forces soient équilibrées. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Donc, si on négocie tous les deux, Jonathan, en amont, on va se préparer et on va se dire, bah, tiens, toi, Jonathan, tu vas faire le désagréable, le méchant, et moi, je vais faire le gars sympa. Et donc, pendant l'échange, tu vas être désagréable avec le fournisseur, tu vas casser les produits, tu vas casser la boîte, tu vas rejeter de manière désinvolte toute proposition. Bref, tu vas être désagréable. Et forcément, le fournisseur, face à cette attitude-là, face à ton attitude, aura tendance naturellement, et c'est humain, à se réfugier vers moi, dans mes yeux, à me regarder plus, à m'écouter plus. Et là, étant donné qu'il va m'écouter, étant donné qu'il va me faire un peu plus confiance, qu'il va se réfugier vers moi, il sera plus ouvert à mes propositions, à ce que je vais lui demander. Alors certes, il ne faut pas que je lui demande des choses déraisonnables, on est d'accord, mais il aura tendance à accepter plus vite et plus rapidement des demandes qui seront celles émises par le gentil, car il les considérera comme légitime, car il considérera qu'il faut faire un effort avec le gentil qui est agréable avec moi, qui essaye d'ailleurs de tempérer son collègue qui est désagréable. Tu vois, c'est ça la technique du gentil du méchant, et c'est pas utilisé uniquement dans le milieu de la distribution, hein, et de la négo, c'est utilisé également dans le milieu de la police, par exemple, ou dans d'autres milieux pour... quelque part, c'est une sorte de manipulation, hein, bien évidemment. Hein, donc, ça, je suis pas là pour vous dire qu'il faut manipuler, loin de là. Mais c'est un jeu de bluff, un jeu de rôle qui est utilisé pour désarçonner, pour surprendre et faire en sorte d'obtenir, bien évidemment, les conditions les plus avantageuses.
Dernière question, Philippe, sur la négociation. Qui doit initier la clôture?
Alors, jamais nous. Parce que plus l'anigo dure, plus nous sommes susceptibles d'obtenir des conditions avantageuses. On doit faire en sorte qu'elle dure le plus longtemps possible et le fournisseur aura l'objectif opposé. Moins elle durera, moins il concédera. Donc, ne nous laissons pas abuser par un fournisseur qui voudra clôturer très rapidement un échange après un argument pertinent qu'il aura eu, après nous avoir concédé quelque chose et pourquoi pas après avoir obtenu aussi quelque chose, il voudra mettre un terme à la négociation. Alors, surtout pas. Dans ces cas-là, on rebondit sur un autre sujet, sur une autre demande. Et lorsque on est convaincu que la négociation ne peut pas aller plus loin, que l'on ne pourra pas obtenir autre chose, à ce moment-là, effectivement, on peut laisser notre interlocuteur clôturer, mais faites en sorte que la clôture ne soit pas trop prématurée.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou Ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt !